Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, nous sommes le 16 avril 2020, vous écoutez le Café de l'e-commerce, je suis Adrien et je suis accompagné de Laetitia.
Salut Adrien, je suis ravie de te retrouver et d'enregistrer ce 36e épisode avec toi, toujours en mode confinement. Le Café de l'e-commerce est le premier podcast de France sur l'e-commerce, le social, le digital, le RSE pour les professionnels, mais aussi pour toutes celles et tous ceux qui s'intéressent à ces sujets. Le Café de l'e-commerce vous propose donc de faire votre veille différemment dans vos oreilles. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir notre cousin du Québec, Alexandre Alves, un véritable couteau suisse du web.
Laetitia,
Adrien,
prête ?
Synchronisation des montres. Et donc, comme je vous l'annonçais en introduction, nous recevons Alexandre Alves. J'ai préféré définir Alexandre Alves comme un véritable couteau suisse du web. Alexandre, comment tu vas depuis Montréal, tabernacle? Je suis obligée de la placer.
Ah, ben Chris, si tu me dis comment ça va. Ben, ça va très bien, merci. On a quand même un beau temps, le printemps est arrivé, donc je veux dire, les gens ont envie de sortir, mais ne peuvent pas.
Alors, Alexandre, dis-nous ce que tu fais depuis Montréal.
Depuis Montréal, je gère une entreprise qui s'appelle Collectif Web, une entreprise bâtie comme une coopérative qui aide en développement web et en web marketing. Nous sommes spécialisés avec WordPress. Je sais que c'est pas WordPress. Très populaire en France, mais ça l'est ici.
Et donc, tu es au Canada depuis combien de temps?
Je suis arrivé en 2012. En fait, j'ai eu un coup de cœur en 2010, un petit élan, même avant d'ailleurs, de venir. Puis en 2012, je me suis installé et en fait, j'étais un ancien comptable avant, comptable malheureux, avec des skills en informatique et en web. Et je m'étais dit, je vais arriver au Canada, je vais me reconvertir. Et de fil en aiguille, j'ai eu un processus introspectif qui m'a mené à identifier ce que j'appelle l'ikigai. Certains peut-être le connaissent là, c'est comme un peu le centre de vie là qui peut vraiment être au centre de ta conversion professionnelle. Et au final, ça a mené vers Collectif Web.
Donc, tu nous parlais de WordPress. Effectivement, avec Adrien, on parle très peu de WordPress. Est-ce que très rapidement, tu peux nous dire en quelques mots ce que tu fais sur WordPress, ce que tes clients te demandent sur WordPress, surtout d'un point de vue e-commerce?
Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour WordPress? Ce serait plus la question. Je sais que WordPress a été mal vu pendant un grand temps dans certains pays, pas nécessairement juste la France ou l'Europe. En Amérique du Nord, ça va, il n'y a pas eu tant de mauvaises réputations. WordPress a tellement d'usages différents. C'est sûr que je suis passé par toutes les différentes étapes aussi d'usage. Moi-même, j'ai commencé à développer sous WordPress, alors qu'avant, j'avais juste appris l'HTML, le CSS, puis juste monté du front-end avec NVU, Dreamweaver. C'était juste classique. Mais quand j'ai attaqué WordPress, c'est sûr que les pratiques, quand tu démarres, c'est utiliser des thèmes, utiliser des plugins, bourrer ça de thèmes et de plugins. C'est aussi le fonctionnement, je pense, dans Shopify et dans d'autres plateformes. Et c'est sûr qu'après, ça devient une plateforme lourde. Puis vu que WordPress.org est une solution open source utilisée depuis beaucoup d'années, qui était initialement un blog et qui a finalement évolué avec le temps, c'est sûr que il y a beaucoup de personnes qui ont ajouté des plugins et des thèmes divers et variés. Ça veut dire que qui dit un grand environnement avec une grande communauté, également beaucoup de plugins, beaucoup de thèmes différents, dit aussi des incompatibilités, des problèmes de sécurité, parce qu'il y en a qui se lancent à faire des thèmes, à faire des plugins, puis finalement dire ah c'est quoi non, c'est pas rentable, je m'arrête. Puis c'est sûr qu'après les gens restent avec ce genre de problématiques. Donc c'est sûr qu'il y a des bonnes pratiques pour WordPress.
Je me permets de t'interrompre, Alexandre. Effectivement, ici, en tout cas en France, WordPress est surtout connu pour être un système de... Alors, pas de gestion de contenu, mais... oui, si, de gestion de contenu pour du blog. Le WooPress, qui gère justement la partie e-commerce, est connu en France. Souvent, ce qu'on dit, c'est qu'effectivement, ça demande beaucoup de développement, beaucoup de plugin, et que là, on n'est plus sur une solution, comme je disais au départ, souple, mais on rentre dans une solution un petit peu plus complexe.
Je suis 100% d'accord. En fait,
merci.
C'est sûr qu'il y a non, mais c'est vrai, mais il y a vraiment des mauvaises pratiques, comme je disais, sur WordPress, puis parfois utiliser à tort WooCommerce pour le e-commerce, c'est pas nécessairement la bonne pratique. Il y a des petites boutiques. Des petites boutiques qui vont juste peut-être, je sais pas, 10 produits maximum et la nécessité d'avoir un WooCommerce n'est pas nécessaire, sachant que WooCommerce vient avec un bundle, un package avec plein d'éléments, plein d'extensions. Et puis si tu veux, je sais pas, ajouter des PDF de factures dans les envois pour les clients ou tu veux ajouter, je sais pas, des étapes différentes que cart, le panier, le checkout, et ajouter des modes de paiement qui sont plus atypiques. Oublie ça, il va falloir que tu passes par WooCommerce, qui est une entreprise privée. Donc là, on n'est plus nécessairement dans le open source WordPress. On est dans l'écosystème privé. Et il y en a d'autres, des systèmes qui existent. Il y a d'autres, des systèmes beaucoup plus simplistes pour pouvoir juste afficher des produits, faire un achat direct, passer par des modes de paiement simplistes comme PayPal, Stripe. Stripe est beaucoup utilisé ici en Amérique du Nord, évidemment. PayPal plutôt dans votre côté. Mais après, des fois, il y a aussi des plateformes qui sont aussi mailing, bah, les banques, là, directement, venant des banques, ils offrent directement l'interface. C'est pas les meilleures. Elles sont pas très souples non plus. Mais elles fonctionnent.
Alors, j'ai une petite question pour toi, Alexandre. Est-ce que tu peux nous citer quelques particularités e-commerce au Québec?
Oui, oui, absolument. Bah, en fait, une des particularités, c'est, je pense, le shipping, les frais de livraison, les modes de livraison. En Amérique du Nord, et j'inclus les États-Unis aussi également, même si j'ai pas nécessairement une giga connaissance, mais les États-Unis ont aussi le même problème là-dessus, c'est qu'on a une sorte de monopole qui est Post-Canada. Bah, on sait qu'il y a UPS, FedEx, qui sont aussi là dans le paysage du shipping, mais ces entreprises, en tout moins Post-Canada, sont excessivement chères. Mais genre excessivement cher. J'ai lu à plusieurs reprises, sans pour autant étayer et approfondir, que il y en a certaines entreprises, pour réduire leurs coûts, ils louaient une camionnette, littéralement. Ils envoyaient leur stock aux États-Unis et ils gagnaient sur la valeur en envoyant des États-Unis au Canada. Okay, c'est stupide, hein. Tu pars d'une province à une autre province, ils font ça. Okay, donc déjà, les frais de livraison sont excessifs. Puis, en plus de ça, c'est la deuxième problématique, c'est que les consommateurs s'attendent souvent à avoir un shipping gratuit. C'est ce qu'ils vendent, le shipping gratuit. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu inclues tes marges dans ton produit, ou du moins, il faut que tu demandes à avoir un panier assez élevé pour pouvoir inclure le frais de shipping à l'intérieur. Ou du moins, il faut que tu trouves une manière d'envoyer ça au distributeur, puis ils vont directement chez le distributeur. C'est ça, c'est deux gros points majeurs par rapport au shipping.
Bah, merci Alexandre pour cette petite introduction. Ce que je te propose, c'est de nous suivre dans le déroulement habituel de notre émission et d'intervenir lorsque tu le souhaites. Et on passe en premier lieu à notre rubrique « Quoi de neuf chez nous ?»
Avec une grosse annonce, Laetitia.
On a une super annonce. D'ailleurs, Alexandre, j'espère que tu contribueras à cette annonce.
On travaille depuis plusieurs semaines sur un projet. La question qu'on s'était posée, c'est comment engager plus avec la communauté. Et on avait discuté en décembre déjà dans le numéro spécial. On avait plein d'idées et il y en a une qu'on va mettre en place dès aujourd'hui. Laetitia, je te laisse l'annoncer.
Eh oui, c'est une super innovation technologique digital, e-commerce, international, worldwide. Bref, c'est un groupe WhatsApp. Voilà. Donc, on a lancé un groupe WhatsApp avec Adrien puisqu'on s'est rendu compte qu'au sein de notre communauté, on avait pas mal de questions. Toutes ces questions-là étaient toujours reliées au e-commerce. Et on s'est dit, bien évidemment, on ne peut pas toujours répondre aux questions au sein d'une émission. Pourquoi ne pas créer un groupe WhatsApp dans lequel l'ensemble de la communauté pourra nous poser des questions et où nous, on pourra répondre et aussi partager d'autres news e-commerce qu'on ne couvre pas forcément dans le podcast. Et donc, on a déjà pas mal de chopitos et de chopitas, parce que c'est comme ça qu'on vous appelle hein, dans la communauté. On est déjà à plus d'une quarantaine de membres. Le groupe commence à prendre forme. Et si vous souhaitez le rejoindre, comment faire, Adrien ?
Il y a plusieurs manières. Le plus simple, c'est de cliquer sur le lien qui va être dans la description de cet épisode. On va également le mettre sur les réseaux sociaux. Donc, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, on va le communiquer. Ce qui me fait rebondir également sur une autre chose qu'on va faire, également dans cette idée d'engager plus avec la communauté, on avait réfléchi à beaucoup de formats pour faire participer des membres de la communauté. Une des idées, toujours avec le vecteur WhatsApp, c'est de vous demander de nous envoyer vos questions directement par notre vocal. Donc vous pouvez le faire soit directement dans le groupe ou alors vous pouvez l'envoyer à info@lecafedelecommerce.fr. Vous prenez votre téléphone, vous posez votre question, votre commentaire, ce que vous voulez, vous nous l'envoyez et on décidera de la publier et d'y répondre dans le prochain épisode.
Ouais, alors moi j'ajouterais aussi que si vous souhaitez participer par exemple à notre rubrique qui s'appelle le café du cœur, si vous cherchez un job, voilà, que vous êtes en recherche active, n'hésitez pas, on peut aussi passer par ce canal-là et puis continuer dans l'émission. Vraiment, n'hésitez pas. On ne prétend pas être des experts à 10 milliards de pourcents, mais en tout cas, on pourra, comme là, aujourd'hui avec Alexandre, faire appel à des experts international worldwide. Alexandre, tu vas rejoindre notre groupe ? Ah ben, on a pas mal de décalage horaire, donc tu risques d'être un peu embêté. Il faudra mettre...
Ah non, je fais des nuits blanches pour vous.
Oh, t'es vraiment adorable. Adrien, je crois que tu avais une news à nous partager.
Ouais, enfin, plus qu'une news, je voulais te faire partager quelques réflexions que j'avais eues ces derniers jours, entre le dernier moment qu'on a enregistré. Il y en avait deux, principalement. La première, c'est Alexandre et Laetitia, est-ce que vous avez remarqué avec le confinement qu'il y a une augmentation de la vente de cartes cadeaux? Est-ce que vous avez reçu des emails ou des SMS ou des sollicitations de certains retailers, des restos, des bars ou ce genre de choses?
Alors moi, j'ai pas reçu ça. En revanche, j'ai eu beaucoup de gens m'ont transféré des liens via des plateformes qui sont montées très rapidement. On pouvait déjà réserver des coupons, vraiment ce que Groupon a créé lors de la crise 2008-2009, où on pouvait réserver des expériences sur les bateaux mouches, des restaurants, voilà, tout ce genre d'expériences un petit peu plus tard dans l'année pour déjà donner un peu de cash flow aux sociétés qui n'en ont plus. Voilà ce que moi j'ai remarqué. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Adrien.
Ouais, et Alexandre, toi ?
Pour ma part, non, pas les coupons, pas les cartes cadeaux. Cependant, le sociofinancement est en ce moment pas mal en vigueur.
Nous, on dit financement participatif.
Ah oui, vous dites pas crowdfunding.
Crowdfunding, ouais.
Crowdfunding. Donc le crowdfunding ici marche très très bien.
Ok.
En tout cas, je trouvais ça intéressant de voir ça parce que ça, c'est vrai que la réponse, on peut trouver des réponses quand tu as un site e-commerce, d'essayer d'innover ou d'engager différemment. Si tu as un bar et un restaurant et que tu n'as pas de site e-commerce ou tu as juste un site vitrine, c'est un peu plus difficile, tu n'as pas d'argent. Donc, c'est une manière de... mais en plus, ils peuvent avoir un peu de viralité, mais en tout cas, c'est une manière d'avoir du revenu et de la trésorerie. La deuxième chose, et puis ça peut être un acte militant pour les clients fidèles qui veulent sauver leur business. Donc, je trouvais que c'était une initiative intéressante. Et d'ailleurs, Shopify, il y a quelques jours ou semaines, à débloquer cette fonctionnalité pour le mettre à disposition de tout le monde. Donc il y a un attrait pour ça. Et ma deuxième réflexion, un peu pareil e-commerce philosophique, c'est un rapport du Gartner d'il y a quelques jours. Donc tout ça, c'est sourcé, on vous mettra les liens, qui a interrogé les CMO, donc les directions marketing, et leur ont demandé en termes d'investissement marketing comment ça allait se passer par rapport à ce qui est en train de se passer avec le Covid-19. Et 65%, donc plus de la majorité des CMO expliquent qu'il va y avoir des coupes budgétaires. C'est pas étonnant, je me serais même attendu à plus, donc faut revoir dans un mois comment ça va être, mais partout autour de moi les investissements marketing sont soit gelés mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été engagées. Donc après, c'est vrai que là on est au milieu de l'année, en général on est en milieu d'année fiscale, là enfin on est en avril, début de deuxième trimestre, donc il y a beaucoup de tous les budgets ont déjà été validés, il y a des coûts qui étaient, enfin des choses qui ont été déjà engagées, donc on va voir comment ça va continuer, mais mon expérience ou ce que je vois autour de moi, c'est qu'en termes marketing ça prend sévère. Et on a un autre feedback, c'est des retailers sur le marché, tu vois que les coûts de la pub, peut-être que Alexandre t'as un avis là-dessus, mais du coup il y a moins d'investissement parce qu'on va geler, on se prépare pendant plusieurs mois à être en récession, ou en tout cas à faire attention à ses dépenses. Et donc du coup la pub qui est en principe de CPM, d'enchères, elle est profitable à certains acteurs parce qu'il y a moins de personnes qui vont enchérir sur des mots-clés ou sur de la pub, et certains peuvent s'y retrouver. Vous avez pu expérimenter ça, Laetitia, toi dans ta société ou autour de toi, tu vois que le marketing c'est quelque chose qui a pris un coup?
Bah ouais, as usual. Ouais, ça prend un coup. Nous, tous nos événements sont gelés, voire annulés, lorsqu'on peut annuler sans frais. Et on réfléchit à les transformer en événements digitaux. Alors, ce que vous créez un événement physique, ça vous coûte de l'argent. Et aussi lorsque vous le transformez en événement digital. On pense toujours qu'une visio ou un webinar, ça coûte pas cher. Non, c'est pas vrai, ça nécessite quand même des moyens. Ensuite, sur ce que tu disais sur sur la pub, effectivement, j'ai constaté aussi que, mais peut-être qu'Alexandre nous pourra un petit peu plus nous expliquer, oui, les enchères, tout a diminué. Je regardais hier un petit peu comment fonctionnait le display sur Google. Effectivement, ça aussi, ça a diminué. On se rend compte que tout ce qu'on avait l'habitude de dépenser en marketing digital prend, comme tu dis tout à l'heure, prend sévère, Adrien.
Pour ma part, c'est un peu pareil. Toutes les Google Ads qu'on fait ont aussi une grosse chute considérable de conversion. C'est sûr que dans la lancée avec le confinement, en fait, tout le monde s'est mis à faire du Google Ads en se disant, ah, tu sais quoi, ça va permettre de pouvoir attirer du trafic puis avoir plus de conversion. Puis il y a plein de petits entrepreneurs qui profitent du crédit gratuit que Google offre pour essayer de faire un peu de Google Ads. Les OBNL se disent, ah, tu sais quoi, on va utiliser Google Grant pour essayer d'avoir notre, je sais plus combien, 10 000, je sais plus combien, dizaines de milliers de dollars par an. Puis, ça fait que du coup, on a une hausse de compétition gigantesque sur beaucoup de mots-clés. Alors, on a eu des clients qui nous disaient, hey, ça convertit plus là sur notre site, ou du moins. Et on a dû leur expliquer que, OK, voici un rapport de compétition, ça... Là, voilà la réponse. Tout le monde se met à vouloir faire du SEM. Puis, en plus de ça, il y a aussi beaucoup de gens qui vont comme créer du contenu. Du coup, la SEO aussi, c'est n'importe quoi ce qui se passe. Il y a tellement de variations sur les positionnements en ce moment. Quoique ça se stabilise un petit peu, mais début avril, c'était absurde. Là, on a vu tellement de variations. La plupart des gars en SEO ont tous dit, ah, tu sais quoi, on arrête. Là, on arrête nos optimisations parce que on va attendre la fin du confinement. On va attendre la fin de toute cette crise-là. Et là, à ce moment-là, ça va sûrement se restabiliser. Puis même Google va aussi ajuster ses algorithmes en fonction.
Ok, merci. Bah, je voulais vous partager ça. Et on va passer tout de suite à la section des news. Et alors, gros morceau, Laetitia et Alexandre, cette semaine. Gros chamboulement avec la rubrique Amazon qui va être le cœur des news qu'on veut parler. Parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé hier. Laetitia, tu vas en parler dans une seconde. C'est vrai qu'Amazon, c'est un petit peu le capitaine Crochet en France. On aime bien lui taper dessus. C'est le méchant. Et je veux juste, avant qu'on explique ce qui est en train de se passer en France, je sais pas si tu as suivi ça, Alexandre, donner quelques chiffres pour remettre Amazon en perspective. Donc Amazon, aujourd'hui en France, ça pèse 22% des dépenses en ligne en France. C'est monstrueux. Le deuxième, c'est Cdiscount avec 8,1%. Le troisième, c'est Fnac Darty avec autour de 4%, 4,1%. Et VP, vente privée, avec 3,4%. Donc entre le premier et le deuxième, il y a un gap énorme. On voit l'importance d'Amazon en France. 45% des individus en France achètent sur Amazon au moins une fois dans l'année. Donc on estime que c'est environ plus de 22 millions de personnes de 18 ans et plus. Le rythme des commandes atteint presque 10 fois par an avec 1,5 articles par commande en moyenne. Et on est sur une valeur moyenne de panier de 23,2 €. Et enfin, sur 100 € dépensés sur Amazon France, 52% le sont sur des produits achetés en marketplace. Et ça, c'est une tendance qui augmente. Donc on voit la proportion, la moitié des produits sont gérés par Amazon et l'autre moitié sont gérés par des vendeurs tiers. Donc on voit Amazon, la position qu'ils ont très forte, et ça se vérifie dans les chiffres en France. Et il s'est passé quelque chose, Laetitia, est-ce que tu veux nous en parler ?
Oui, alors depuis le début du confinement, Amazon est un peu critiqué et dans l'œil de mire. Amazon, au début du confinement, donc aux alentours du 16 mars, avait fait le choix de continuer ses livraisons depuis ses entrepôts. Alors là, Alexandre, du coup, je parle uniquement de la France, on ne parle pas des États-Unis et du continent nord-américain. Donc en France, les entrepôts continuaient, les salariés continuaient de travailler. Et ce qui a très vite été pointé du doigt, c'est que souvent, ce qui était expédié, commandé et expédié n'était pas forcément des produits de première nécessité. Ce que le président français avait exigé lors du confinement, c'est que uniquement les commerces de première nécessité, donc alimentaires, soit ouvert, avec inclus les pharmacies. Toujours est-il qu'Amazon, au départ, continuait de vendre, je ne sais pas, des parasols, des choses comme ça. Petit à petit, il y a eu une grogne des salariés qui estimaient que leurs conditions de travail ne respectaient pas les conditions de confinement, en tout cas pas de confinement, mais de distanciation sociale déjà, puisqu'il faut qu'il y ait 1 mètre de distance entre les salariés, a priori, ce n'est pas pas respectée au sein des entrepôts d'Amazon, qu'il n'y avait pas suffisamment de masques, pas suffisamment de gel, et puis les portiques que les salariés traversaient n'étaient pas désinfectés régulièrement. Donc les syndicats ont été saisis, et puis le tribunal a été saisi. Hier, le tribunal de Nanterre a décidé de sommer Amazon pour qu'il se limite à la livraison des produits essentiels, ce qui avait déjà été demandé auparavant, juste le temps d'évaluer correctement les risques sanitaires. Et puis, suite à ça, Amazon a réagi sur Twitter, à l'américaine, en disant « Non, non, nous, on va faire fi de cette décision. » Et puis, bim, pendant une semaine, ouais, c'est ça, jusqu'au 20 avril inclus, on va fermer nos entrepôts, on ne livrera plus rien. Il y a 2 heures, on a le big boss d'Amazon France qui a envoyé un email qui explique la décision d'Amazon France de la fermeture de ses entrepôts. En tout cas, il y a une réaction d'abord sur Twitter qui dit « Ok, vous voulez… » Parce qu'en fait, ce que risquait Amazon, c'était une amende d'1 million d'euros par jour quand même. Si Amazon continuait de livrer ses produits non essentiels et à ne pas respecter les mesures d'hygiène. Donc, riposte sur Twitter, riposte aujourd'hui par email. Voilà, c'est Amazon, une saga interminable. Lorsqu'on a créé le podcast, moi j'étais une Amazon addict. Je prenais pas nécessairement le modèle, mais en tout cas, le modèle, mais en tout cas pas les méthodes de fonctionnement d'Amazon, et certainement pas en France. Petit à petit, sous l'influence de Mr. W, qui intervient très régulièrement au sein du podcast,
et qui va bientôt revenir,
et qui nous partage beaucoup d'informations sur Amazon, mais d'un point de vue, on va dire, des salariés, pas technologiques. Je le rappelle parce que nous, au sein du podcast, on fait la différence entre la technologie très avancée d'Amazon, qui est très précurseur et qui incite et invite beaucoup de nos e-commerçants à se surpasser, et puis le côté un petit peu plus social. Voilà, je pense que vous aurez remarqué qu'il y a je défends certaines valeurs un petit peu plus sociales. Voilà. Du coup, je suis partagée sur les méthodes aujourd'hui d'Amazon de non-respect, en tout cas pour les salariés. Ils mettent clairement en danger les salariés de leurs entrepôts. Ça, c'est juste pas correct. Je comprends pas pourquoi il y aurait une dérogation Amazon. Voilà. Donc moi, depuis janvier, je commande très très peu sur Amazon. Sinon, j'ai arrêté d'acheter des livres, j'ai arrêté d'acheter toutes ces choses-là. Je m'en porte beaucoup mieux. Et surtout, je pense à tous ces gens qui… alors là, du coup, c'est fermé pendant une semaine. Mais tous ces gens-là qui ont travaillé nuit et jour pour que certains reçoivent des jeux vidéo pour les donner à leurs gosses parce que c'est mesure de confinement. Non, les jeux vidéo, c'est absolument pas essentiel et c'est pas primordial. Et ça ne doit certainement pas mettre la vie des gens en cause.
Moi, j'avais noté plusieurs choses. Est-ce que tu as une idée de combien de marchandises essentielles étaient vendues là, sur la dernière semaine, donc avant la décision de justice?
Ça représente quoi? Mais vraiment essentiel, tu veux dire de la nourriture?
Bah, ce qui est considéré comme essentiel, les trucs de pharmacie, etc., nourriture et compagnie.
Tu veux un pourcentage?
Ouais.
Mais je pense que ce n'est pas beaucoup. Hein. Ça doit être moins de 50%.
Eh bien, écoute, c'était 10%. Donc, quand tu mets des règles de confinement au niveau national très restrictives et qu'ensuite, tu as le retailer qui ne joue pas vraiment le jeu et 90% de son business, ce ne sont pas des choses essentielles, tu vois, à la limite, ça aurait été 20% non essentiel. Bon, ok, pourquoi pas. Mais là, on est en train de parler de 10% seulement étaient essentiels. Donc, en fait, ils étaient censés pouvoir vendre que 10%. Et pourquoi on parlait d'essentiel? Parce que du coup, ça diminue les volumes dans les entrepôts. Donc, il y a moins de charges de travail. Donc, les gens peuvent être… il y a moins de personnes dans les entrepôts. Et puis, il peut y avoir plus de distance, etc. On est bien en train de parler là de l'impact sanitaire ou des risques sanitaires des employés. C'est vraiment là, c'est ça qui est mis en avant ici et pas autre chose. Autre chose à garder en tête, les entrepôts vont fermer, mais ça n'empêche pas Amazon de continuer à livrer à partir de l'étranger. Donc en réalité, pour le consommateur, là j'y suis encore allé tout à l'heure sur le site, tu vois pas trop la com, le site est c'est le même site qu'il y a quelques jours, pour le moment ça se matérialise pas sur le front. Donc concrètement, ça va juste être impacté sur les délais de livraison. Il y a certaines choses qui vont prendre plus de temps, mais les gens aujourd'hui, ils ont revu leurs attentes, ils sont à la maison, donc je pense que l'impact il sera pas aussi important qu'on puisse le voir, sauf si maintenant, Et donc, c'est ce qu'ils devraient faire, stopper la vente de certaines catégories. Mais si on se dit qu'ils peuvent toujours les vendre depuis l'Italie ou depuis l'Angleterre, a priori, ils pourraient continuer comme ça.
Moi, il y a juste quelque chose, excuse-moi, que j'ai pas, qui est aussi très important, c'est qu'au-delà des personnes qui travaillent dans les entrepôts, eh ben, il y a aussi les transporteurs. On en a déjà parlé dans ce podcast, mais du coup, lorsque vous passez une commande, qu'Amazon se dépêche, enfin, le ou la salariée Amazon se dépêche de le mettre dans votre colis, de faire du picking, ce qu'on appelle en logistique, derrière, il y a aussi tous les transporteurs qui se dépêchent de vous livrer votre jeu vidéo ou votre rap ou je sais pas, toutes ces choses-là qui sont pas essentielles. Donc en réalité, Amazon entretient toute une chaîne de personnes qui peuvent être à risque.
L'autre chose à garder en tête, c'est qu'il y avait déjà eu plusieurs alertes pour danger grave et imminent qui avaient été déclenchées par les salariés. Les salariés ont essayé de faire valoir leur droit de retrait et ça a été contesté par la direction. Il y a eu des actions prud'homales qui ont été diligentées par des salariés et pour faire valoir leur validité de droit de retrait. Il y a même une plainte qui a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui par des salariés. Donc, c'est pas juste quelque chose d'isolé, mais c'est quelque chose de répété qui est venu de différentes... Enfin, les plaintes étaient répétées, il y a eu des constatations de mauvaises conditions et des erreurs qui ont été commises de la part d'Amazon. Je trouvais intéressant de l'amende d'un million d'euros par jour, c'est un petit peu mettre une valeur sur la vie des personnes. Parce qu'en fait, in fine, là, on est en train vraiment de se dire à combien vaut le risque que sont en train de prendre ces salariés. Donc, ça paraît important, mais ils ont essayé de trouver à combien ce risque porté, quoi, quel serait le préjudice, à quel montant serait ce préjudice. Alexandre ?
Je trouvais que la contravention de 1 million par jour, c'était pas assez. Jeff Bezos a eu 24 milliards depuis le début du confinement. Juste voilà. Avec son salaire. C'est juste son salaire.
C'est du financement participatif. Voilà.
C'est ça.
Ce que je trouve intéressant, c'est, tu vois, à chaque fois que je regarde des news, je vais voir les commentaires. Parce que je suis très intéressé, je suis toujours curieux de voir la réaction des gens. Bon, il n'y a qu'une partie qui commente. Et en général, en plus, ce sont les extrêmes qui commentent, c'est pas les gens modérés. Moi, j'étais étonné parce que malgré tout ça, les gens, ils défendent Amazon et ils se mettent contre le gouvernement. Pourquoi on laisse Fnac, Darty continuer à vendre? Pourquoi on laisse les autres retailers? Nous, aujourd'hui, on a besoin de ça. Et en fait, si tu te mets point de vue consommateur, il veut quoi? Lui, il veut juste avoir consommateur, hein, pas salarié, mais consommateur. Il veut avoir sa console, il veut avoir ses produits rapidement, etc. Donc, on peut se dire que c'est égoïste. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui défendent à Amazon et peut-être qu'ils n'ont pas... toutes les clés, ou peut-être qu'ils voient ça de loin et en tant que consommateur, ils voient juste le bénéfice qu'ils vont perdre. Et Alexandre, est-ce que Amazon, il a une importance aussi forte au Canada?
Entre autres, en fait, c'est drôle, les gens commandent sur Amazon, mais avec culpabilité, parce qu'ils savent que c'est mal de le faire. Ici, là, dans la rue, je vois tellement de boîtes Amazon qui se postent devant les portes. Mais je pense que je voulais justement dire qu'il y a aussi une éducation de la part du gouvernement qui peut-être n'a pas été faite du côté de la France, en tout cas ici au Québec, c'est pas le pays là, la province, au niveau du gouvernement provincial ici, il y a beaucoup de local, c'est important de supporter les entreprises locales d'ici, artisanales, etc. Et vu qu'il y a des campagnes qui sont mises en place, ça a fait réfléchir certaines personnes qui devraient plutôt... Donc, supporter les entreprises qui sont à côté de chez eux et qui sont capables de livrer parce qu'ils ont réussi à trouver un moyen pour, au lieu d'aller commander sur Amazon. Ben, on s'entend, il y a toujours des produits sur Amazon qu'on ne trouvera pas localement, malheureusement. Et là, il y a aussi une réflexion, justement. Ok, est-ce que je suis capable de me contenter de ce que j'ai ou est-ce que je vais quand même céder au diable et aller commander sur Amazon? Et puis, je pense qu'il y en a qui cèdent au diable quand même.
Cette prise de conscience, on la voit également en France, qu'on consommait local, français, versus alimenter une multinationale qui payait pas peu ses impôts en France. Donc, je pense que voilà, c'est en train d'évoluer, ça va prendre du temps et... Mais c'est compliqué.
On passe à la rubrique Corona du cœur. C'est la rubrique qui répertorie toutes les belles, bonnes actions et initiatives pendant cette période de confinement. Et aujourd'hui, Adrien a répertorié deux news.
La première qui m'a fait plaisir quand je l'ai lue, c'est H&M et Primark qui continuent de payer les travailleurs au Bangladesh. Donc la production, elle est outsourcée au Bangladesh. Ils ont annulé leurs commandes à cause du coronavirus. Et dans un souci de supporter les travailleurs et l'économie du pays, ils vont continuer à honorer leur commande alors que ça a été annulé et qu'il n'y a plus de production. Et surtout, si tu regardes à l'opposé, Mango, Zara, pareil, ils ont stoppé leur transaction qui était toujours en production. Donc là, pour le coup, ils étaient en train de les produire et ils ont arrêté au milieu. Et tu as CA qui a même décidé de même plus payer les produits, même s'ils ont été, ils ont été produits. Donc tu vois, tu vas jusqu'à l'extrême, ça a été fait, tu l'as produit, non mais je te paierai pas. Bon, on voit ces comportements-là, mais quand tu vois quelqu'un qui te dit, bah écoute, je vais quand même te payer, même si je vais pas le vendre et que c'est bloqué, c'est quand même à applaudir versus d'autres retailers qui sont peut-être moins scrupuleux là-dessus. Donc merci H&M et Primark, bien joué. Mouah. Blablacar qui lance une application pour favoriser l'entraide. L'application s'appelle Blabla Help. Ça a été développé en une semaine, donc j'ai souri quand j'ai vu ça. Ils ont organisé un hackathon en interne, donc une réunion de développeurs, on va dire, sur une journée où ils brainstorm sur plein d'idées et puis ils développent quelque chose sur un temps très court. Et l'application, donc il y a eu une cinquantaine de projets. Ils ont détecté cette application, cet usage que je vais vous expliquer dans une seconde, et ils ont développé en une semaine. Qu'est-ce que ça fait ? Ça permet tout simplement aux personnes les plus vulnérables, on pense aux personnes âgées, de trouver quelqu'un dans leur quartier pour les aider à faire leurs courses de première nécessité. Donc bravo Blablacar pour l'initiative et merci pour vous. On passe à la rubrique simple et funky, des news simples
dans un format funky. Et je commence tout de suite avec Jouécoble qui a décidé de rouvrir son service de drive en mode sans contact.
Franprix qui invite Decathlon dans 70 de ses magasins en Île-de-France. Decathlon va pouvoir mettre à disposition 5 de ses produits phares, parmi lesquels on retrouve la corde à sauter, le tapis de sol, les haltères, les élastiques et la roue abdominale. Ça permet de continuer à faire du sport chez soi.
L'application Walmart Grocery enregistre des records de téléchargement pendant cette période de confinement et dépasse Amazon de 20%.
Et enfin, une boutique Hermès en Chine qui a généré 2,7 millions de dollars en une seule journée lors de sa journée de réouverture après le confinement. Certains y voient une lueur d'espoir dans le secteur du luxe.
Qui ne connaît pas la crise ou qui en sort en tout cas en Chine.
On passe tout de suite à la rubrique passe le mic. Laetitia, cette semaine, qui est-ce qu'on reçoit ?
On reçoit un invité que nous avons déjà reçu. Il s'appelle Oussama. Et Oussama travaille chez un grand retailer au département e-commerce. Nous avons donc posé 4 questions à Oussama. Nous lui avons passé le mic en cette période de confinement. Parmi ces 4 questions, nous lui avons demandé son top 3 des sites e-commerce en temps de crise, quel impact la crise a eu sur son business, ses meilleurs tips de confinement pour surpasser cette crise, et enfin, s'il a noté une initiative positive dans l'e-commerce. Oussama, on te passe le mic.
Hello Laetitia, hello Adrien, bonjour les Chopitos. Donc je participe aujourd'hui à la rubrique passe le mic et je vais commencer par le top 3 des sites e-commerce sur lesquels je passe le plus de temps pendant cette période de confinement. Donc je passe en première position beaucoup de temps sur le site de Carrefour pour mes courses avec une livraison Drive Piéton qui est maintenue malgré la situation et la crise sanitaire. Il y a quelques petits soucis sur le site en termes de trouver un créneau libre ou en goulot d'étranglement à l'entrée du site, mais ils font du mieux qu'ils peuvent et on les remercie pour avoir maintenu le service. Je passe aussi beaucoup de temps sur le site Apple. J'essaie de trouver une super montre Apple Watch. Voilà, je m'ennuie, donc du coup j'essaie de m'occuper et je suis toujours aussi impressionné par la qualité du site, la qualité des visuels et surtout l'expérience utilisateur. Chapeau. Et enfin, je passe beaucoup de temps aussi sur le site Reebok. Voilà, j'essaie de trouver des affaires de sport et on peut dire que je prépare le déconfinement. Donc l'activité e-commerce du secteur du luxe bat son plein. Les magasins étant fermés, la grande partie du business est portée aujourd'hui par le e-commerce. Les chiffres sont extrêmement intéressants et je pense que le top management et la prise de conscience de l'importance du digital et de l'e-commerce en général ne fait que s'accentuer depuis quelques semaines et je pense que j'ai une grande conviction que nous allons voir de plus en plus de projets d'innovation et de budgets alloués massivement dans le département e-commerce dans les années à venir. Place maintenant à la troisième section qui concerne quelques conseils pour gérer au mieux le confinement. Donc j'en ai trois. Donc démarrer le matin par une petite séance de yoga de 20 à 30 minutes. C'est le moment de découvrir des nouvelles choses. Moi j'estime que je passais entre 20 et 25 minutes de temps dans les transports. Donc je les remplace par une petite routine de yoga qui me permet de bouger un petit peu mon corps et de surtout me détendre avant de démarrer une bonne journée de travail. Mon deuxième tip, c'est bloquer vos agendas entre 12h30 et 13h30 ou entre 12h30 et 14h. Parce que il faut aussi se donner du temps pour le repas. Et je sais qu'aujourd'hui, le télétravail, voilà, on a tendance à oublier qu'on a aussi une vie et que, comme au bureau, on a l'heure du déjeuner sur laquelle on ne peut pas faire de réunion. Et enfin, mon troisième petit conseil concerne se fixer une heure limite où on ferme la boutique. Donc voilà, moi aujourd'hui, tous les jours, à 19h, 19h30, je décide de fermer mon ordinateur et de ne plus répondre ni à aucun mail, ni à aucun Teams, ni à aucun call. Enfin, la dernière section qui concerne les quelques initiatives que j'ai notées sur les différents sites e-commerce. Donc j'en ai noté deux intéressantes. La première, c'est que beaucoup de retailers proposent des délais rallongés pour les retours, et notamment 30 jours post-confinement, et donc du coup pouvoir aller en magasin, retourner les produits, etc. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une super initiative qui donnait un peu plus de flexibilité aux clients pour l'achat online. Et la deuxième et la plus importante, c'est... Je n'ai pas vu un seul site d'un grand retailer qui n'a pas fait mention du coronavirus et de la situation et de la crise sanitaire, avec beaucoup de messages envers les différents internautes. Prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et de celle de votre famille. Voilà, le business est important, mais on est dans une situation où on a besoin que tout le monde se discipline, et je trouve que les entreprises et les retailers ont plutôt joué le jeu à ce niveau-là.
Merci Oussama, on a noté tous tes petits tips, et puis j'espère que tu as réussi à acheter ton Apple Watch vu que tu as passé des heures sur le site d'Apple.
Alors on entre dans un nouveau segment, c'est la rubrique divertissement de la fin d'émission. Donc pour ça, on va avoir le premier segment qui est l'interro surprise. L'interro surprise, je vais vous poser une question chacun sur un focus pocus qu'on a évoqué dans les derniers épisodes, et on va voir si vous avez bien écouté. Je commence par qui veut commencer ?
Alexandre.
Merci, Laetitia.
Alexandre, sois content parce que je crois que tu es la plus simple. Alors, parmi cette liste, quel est l'outil de Web Analytics gratuit le plus célèbre ? Tu as Google Analytics, Adobe Analytics, Microsoft Analytics, Facebook Analytics.
Oh waouh, je veux voir un Facebook Analytics. C'est Google Analytics ?
Bravo, très très bonne réponse.
Bravo, Laetitia, Alexandre.
Laetitia, pour toi, allez. Quelle est la manière la plus commune pour collecter les données d'un site web ? L'importation des données du fournisseur d'accès de tous les internautes, quelques lignes de code à placer sur chaque page de son site, l'analyse du journal d'événements sur ton serveur ou l'analyse de tes mouvements au travers de ta webcam.
Quelques lignes de code ?
Très très bien, qu'on appelle les tags. Bravo Laetitia,
les tags.
Bravo tous les deux.
Alors je voulais juste préciser que c'est interdit la première réponse que tu as donnée. Hein. Enfin, oui, enfin, le fournisseur d'accès,
c'est pas voilà. Je mettais les petites réponses loufoques, c'est comme la webcam, etc. Bon, les réponses qui font pas du tout sens. Ou genre Facebook Analytics, ça me faisait marrer justement.
Ouais, voilà.
Ça fait marrer que moi, mais bon, bref.
Non, ça me fait rire aussi. Allez.
Alors, deuxième petit jeu, c'est le QPUC. Laetitia, tu sais ce que c'est ? Tu nous rappelles ce que c'est que le QPUC ?
Mais on dirait le nom d'une université au Canada, un peu, non ? Non, je t'assure.
Ou d'une tribu amérindienne.
Ouais, voilà. Le QPUC, c'est question pour un champion.
Exactement. Donc, on s'est inspiré de l'émission. Okay. Et donc, on va commencer par toi, Laetitia, si ça te va bien.
Allez.
Je vais te décrire. Donc, l'objectif, c'est que tu retrouves le plus rapidement possible l'enseigne, le retailer, la marque, la société que je vais décrire. Et alors, Alexandre, tu vas voir comment ça marche. Et puis ensuite, on va passer à toi. Laetitia, c'est parti. Je suis une entreprise française de commerce électronique créée en 2001. Je développe un concept original de vente sur Internet qui me permet de devenir le leader en France de mon segment. En 2016, je rachète mon concurrent espagnol. Pardon ?
Vas-y. Vente privée.
Waouh !
Yeah !
Bravo ! Je dis waouh parce que j'étais tout au début.
VP, d'ailleurs.
Et je vais terminer tu vas voir, t'étais vraiment au début. Mon fondateur est toujours le CEO et je fais partie du Next40. En janvier 2019, je change de nom pour sonner plus international. Je fais partie des sites les plus populaires en France. Mon siège est à la Plaine-Saint-Denis. À l'origine, je proposais un site web de vente destiné à des clients préalablement parrainés.
Ouais,
je suis dans
vrai.
La catégorie de la vente événementielle en ligne, appelée aussi vente privée. Je suis VP. Bravo Laetitia. Vraiment, chapeau. Alexandre, c'est parti. Je suis une multinationale américaine de commerce électronique. Lancée en novembre 2008, je suis dans le top 100 des sites les plus consultés en France. J'entre en bourse le 4 novembre 2011. Avec une capitalisation de 2,4 milliards de dollars, mon modèle est pourtant aujourd'hui mis à mal. Je me concentre surtout sur les produits de luxe, les produits d'entreprises naissantes ou en recherche de nouveaux clients, car ces entreprises sont prêtes à vendre à perte pour se faire connaître, des bons de réduction. Mon logo est sobre et vert pomme. Mon business repose sur le concept d'achat groupé et je suis le leader dans ce segment. Je suis...
Des groupons.
Bravo, bravo, bravo. Tu l'avais trouvé avant, Alexandre ?
Je voulais tout entendre.
Ah, bravo, 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 bravo. Merci de me laisser parler. Celui-ci était un petit peu plus difficile, je pense. Bah écoutez, merci d'avoir participé à ce petit jeu. Je m'amuserai à essayer de corser le truc quand il y a des invités et puis à varier les jeux.
Bon, eh bien, nous arrivons au terme de cette émission. Alexandre, merci. J'espère que tu as passé un agréable moment avec nous.
Très bon moment, c'était très sympathique.
Bah écoute, tu reviens quand tu veux, notre cousin du Québec.
Pour te retrouver, Alexandre, on va mettre ton lien LinkedIn et on mettra les informations pour contacter ton agence également.
Impeccable. S'il y a des gens qui ont des questions, il n'y a pas de problème de me les poser. Ça fait plaisir d'aider.
Super, tu fais partie de la communauté maintenant des Chopitos et Chopitas.
Oh yeah.
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir partagé avec nous ce moment. Pour retrouver les références de cet épisode, rendez-vous dans les notes de l'émission ou sur le site lecafédelecommerce.fr. Et profitez-en pour vous inscrire à notre newsletter, vous inscrire à notre groupe WhatsApp et nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
Partagez cet épisode autour de vous. Merci encore, merci à tout le monde et à très bientôt Alexandre. On se retrouve pour un autre épisode. Ciao, ciao.
Comment on dit salut là, oula.
On dit au revoir.
Au revoir, il n'y a pas de truc...
Non.
Bon bah au revoir alors.
Bonne semaine.
Allez, ciao.
Bonne semaine.